Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport, en direct du Mans,
Georges Quirino.
En direct du Mans avec la course Moto 3 qui va s'élancer dans quelques instants. On est dans le tour de chauffe Moto 3, ensuite Moto 2. Évidemment, ce sont les différentes cylindrées et la catégorie reine, la Moto GP, tout à l'heure à 14h. Course à suivre sur RMC, bien sûr, avec Fabio Quartararo qui partira 5e. Johan Zarco, vainqueur l'an passé, 10e. La pole pour l'Italien Bagnaia sur sa Ducati devant le leader italien Bezzecchi sur sa Aprilia. On sera évidemment au cœur de la course dans un instant sur RMC. On est avec Marc Madiou, on est toujours avec Fred Weiss, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski. Je rappelle, vous pouvez écouter les deux premières heures des Grandes Gueules du Sport en podcast, évidemment retrouvées sur toutes les plateformes de téléchargement, et qu'en fin d'émission tout à l'heure, vous pouvez participer au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, remportez votre enceinte portable minotée au design épuré de Lexon, qui peut se transporter partout grâce à son mousqueton intégré.
Mousqueton.
Voilà, exactement. Pour gagner votre enceinte Lexon, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Il nous a rejoint dans notre studio juste au-dessus de la ligne de départ arrivée, alors que le départ de la course en Moto 3 vient d'être donné. Il y a un drapeau jaune déjà agité car il y a des chutes au premier virage. Et oui, la piste est humide ici sur le circuit de la Sarthe. Renaud Lavillény nous rejoint en studio, notre champion de la perche, évidemment champion olympique, ancien recordman du monde et motard accessoirement. Salut Renaud.
Salut à tous.
Renaud qui vient tous les ans ici. Mais là, tu t'es levé pour regarder le départ de Moto 3. Faut jamais rater ça quand même. Hein.
Non, puis surtout que le poste, il est incroyable. On est juste au-dessus de la ligne de départ, donc faut vraiment profiter. Et puis surtout dans les conditions climatiques qui ont déjà changé. On voit les crashs qui sont en place et ouais, c'est toujours spectaculaire, et surtout les Moto 3, c'est incroyable à voir quoi.
Qu'est-ce que t'aimes dans la moto Renaud? C'est quoi, il y a un côté adrénaline aussi là-dedans pour toi?
Aussi beaucoup, ouais. Il y a beaucoup d'adrénaline et je compare aussi toujours un peu avec la perche, alors de manière différente, mais c'est le côté où tu prends des sensations si tu veux en avoir. Si tu veux pas, tu fais un truc chill, t'es tranquille. Et la moto, c'est un peu pareil, et c'est ce que j'aime, c'est de pouvoir voilà titiller des émotions que tu peux pas retrouver ailleurs. Et quand tu te retrouves sur un circuit où tu poses le genou à 180 km/h, voilà, c'est quelque chose qui est juste phénoménal. Donc ouais, j'adore ça depuis tout gamin. J'ai toujours aimé la moto, et depuis quasiment 15 ans que j'en fais aussi sur circuit. C'est ouais, c'est un autre sport quoi.
Ouais, t'as participé aux 24 heures du Mans moto?
Ouais.
Il se déroule ici, donc tu le connais par cœur le circuit là.
Ouais, je connais bien le circuit, et c'est pour ça que je suis toujours ébahi de voir les performances qu'ils font ici, parce que je sais moi, alors à mon niveau qui est un petit niveau amateur, hein, mais qui est déjà voilà, il faut déjà s'engager, etc. Oui. Et quand je les vois après en MotoGP arriver à des vitesses folles,
il y a une grosse différence de vitesse par exemple entre les motos d'endurance et les motos GP.
Ouais, ouais. Bah déjà il y a quasiment entre 50-60 chevaux de différence. Ouais. Et puis c'est le poids en plus, à fond 40 kilos de moins. Donc là le truc c'est que les motos GP sont faites pour être performantes sur 45 minutes. Tout est optimisé aux petits oignons. Une moto d'endurance, elle est faite pour tenir 24 heures. Donc du coup, on va privilégier un peu plus le confort que la vitesse pure, parce que tu peux être rapide, mais si au bout de 3 heures la moto elle va plus, ou que toi t'as des courbatures dans tous les sens,
tu fais 8 heures.
C'est une conception qui est complètement différente, et c'est ce qui fait que dans mon cas ça m'allait bien, parce que la vitesse pure en soi c'était pas le but ultime, mais par contre d'être un peu moins rapide et par contre de prolonger l'effort, prendre un relais à 2 heures du mat quand tout le monde est en train de dormir, c'est des trucs, c'est extraordinaire, hein, franchement.
Attends, mais t'as pas des moments où tu dis mais qu'est-ce que je fais là? En fait, là.
Alors, mes équipiers, tous les mecs, c'est ce qu'ils disaient. Il fait à un moment donné, tu t'es là et t'as toujours ce moment où t'es sur la moto, tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et moi, en fait, je savais pourquoi j'étais là.
J'ai gagné plein de trucs dans ma vie, pourquoi je suis là?
Ouais, mais je l'avais vraiment choisi, et c'était.
C'est kiff là, en fait.
C'était un moment qui était incroyable. Ouais, et
j'ai des moments suspendus, en fait, quand même. Hein. Tu retrouves tout ça, oui, avec ta bécane en cœur de la nuit sur le circuit du Mans.
C'est vraiment ça, et puis c'est l'avantage qu'il y a quand t'es en moto, c'est que t'as pas d'écouteurs, t'as rien. Donc t'es tout seul dans ton casque avec ta moto, ton
circuit. Y a pas de liaison radio avec le
stand? Ah non, on a rien. La seule liaison que l'on a, c'est les box. Enfin, c'est sur la voie des stands, oui. Où on a le panotage.
Panotage.
Donc c'est en fait toutes les un peu moins de 2 minutes, tu as une info et c'est tout, le reste tu es tout seul et c'est ce qui
c'est
te permet de
retrouver. C'est une introspection incroyable finalement, parce que tu es dans ta bulle, tu es dans ton truc, tu es
ouais. C'est vraiment incroyable. Faut pas avoir peur de se retrouver tout seul.
Ouais, c'est ça.
Et tu arrivais à t'étalonner par rapport à tes coéquipiers qui étaient sans doute peut-être plus professionnels que toi par rapport à l'endurance. Les gars qui font les 24 heures en endurance moto. Et toi qui arrives avec ta perche.
J'avais laissé la perche.
Dans les virages.
Je suis arrivé. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on a des chronos à respecter. Il faut faire un chrono minimum pour se qualifier et participer. Donc j'ai pas volé ma place.
J'ai
eu le chrono, etc. Et après, en fait, la plupart du paddock était assez honoré parce que c'était un an après les Jeux. Enfin, un an après mon titre olympique. Donc ils étaient vraiment honorés de ma présence et un des souvenirs que j'ai eu, c'est dans les 5 dernières minutes de la course, et j'ai eu la chance de faire le dernier relais et de passer la ligne d'arrivée. Tous les mecs me saluaient, etc. Parce que voilà, on pour le coup, tout le monde mesurait l'exploit déjà, en fait, que ce soit une personne lambda ou un pro, de finir les 24 heures du Mans.
Et t'étais tout seul dans ce cas de figure, ou il y avait d'autres sportifs de d'autres milieux qui...
Il y avait des leaders,
mais il allait beaucoup moins vite.
Renaud, tu disais tu l'as fait après les Jeux. C'est plus qu'un loisir, là, t'es dans une passion vraiment, vraiment débordante.
Passion depuis... pro, parce qu'il faut...
Oui, mais pourquoi tu te lances pas dedans, en fait? Pourquoi t'en fais pas,
maintenant?
Mais non, c'est assez amateur. Enfin, ce que je veux dire.
Pourquoi t'es pas champion du monde MotoGP? Non, t'as pas d'ambition, quoi?
On parle d'endurance. Donc, de rentrer dans une équipe.
C'est le projet.
C'est ton deuxième sport, donc.
Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai été un peu ambitieux et j'ai pas écouté tout le monde à cette époque-là, hein, quand j'ai fait le choix, parce que j'étais encore en pleine carrière. J'aime bien rappeler, c'est que 6 mois après, je bats le record du monde, donc ça n'a pas été non plus néfaste dans ma préparation quand même. Mais voilà, après on sait que la part, le quotient de risque est un peu plus élevé. Ça reste que la plupart des blessures que j'ai pu avoir sont arrivées à la perche et pas en moto.
Enfin, là, t'as fini ta carrière.
Et non, pas encore. Faut suivre les actus.
C'est pour ça.
J'ai pas encore fini, donc je me donne le plus possible que je peux à la perche. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'en moto, bah, c'est le moteur qui fait le taf, et donc même à 40 ans, 45 ans, je peux toujours rouler, et notamment en endurance, on peut se permettre de rouler un peu plus tard. Donc c'est mon objectif de revenir. Oui, bien sûr. J'ai envie.
Tu vas enchaîner les deux peut-être.
La transition va se faire et quand ça va se décider que la perche j'arrêterai de manière professionnelle, parce que je vais jamais vraiment arrêter, mais quand le côté pro va s'arrêter, derrière après la moto, parce que j'en fais toujours un petit peu, donc. Voilà, j'essaye de garder un petit peu le rythme et puis toujours le plaisir. Et puis derrière, après, soit je vais construire une équipe, soit je vais en intégrer une. Je suis pas trop inquiet par rapport à ça et ça va se faire.
Donc
quoi.
Dans les prochaines saisons, dans les prochaines années, on va surveiller l'équipe.
Il y a des chances.
La vie des 10 teams.
L'envol GP, quoi. Ouais.
On va voir. Je serai pas en GP.
T'as pas envie de te lancer dans le vélo, parce qu'on a vu qu'un pilote moto avait tenté de faire du vélo, Marc Spargaro. Ça a pas duré très
compliqué
longtemps.
Quand même.
C'est compliqué quand même.
J'ai pas le moteur.
Qui t'a recruté? Tu veux pas faire du basket, parce que
j'en ai fait quand j'étais jeune, mais vu mon gabarit, c'est.
Oui, mais tu sautes haut, tu compenses.
Tiens, allez, rapidement, on va ouvrir la porte du vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
C'est vrai qu'on a continué la discussion ensemble, mais c'était intéressant d'avoir sur ce registre-là. Mais dans le vestiaire, tu sais, Renaud, on aime bien parler à travers vos expériences de sportifs, à travers les anecdotes que vous avez vécues, pour comprendre un peu ce qui se passe dans la tête de nos sportifs que l'on a actuellement. Là, on voulait parler aujourd'hui de ces victoires qui changent la vie, comme celle de Johann Zarco il y a un an, évidemment, sur le circuit du Mans, 71 ans après la dernière victoire. Toi, à quel point, je sais pas, quelle est la victoire qui a changé ta vie, tiens? Le titre olympique ou le record du monde? Qu'est-ce que tu mets au-dessus?
Pour moi, c'est le titre olympique qui a été vraiment le premier changement. Et qui a fait d'ailleurs que le record du monde est arrivé derrière. Mais ça change tout, parce que On passe de j'avais été champion du monde, champion d'Europe déjà deux fois avant, mais on passe dans une autre dimension parce qu'on est avec tous les sports que tout le monde nous regarde pendant deux semaines et c'est clairement ouais après le titre olympique où tu sens que la dimension n'est plus la même, que le regard des gens n'est plus le même.
Tu sens que tu t'appartiens plus tout à fait aussi, que t'appartiens un peu à tout le monde dans ces moments-là. C'est ce que vit Johan, je pense, hein, Zarco. On l'a vu sur le circuit depuis le début du week-end. Il vient, tout le monde a envie de le toucher, tout le monde a envie de le voir. C'est l'ami, la famille de tout le monde, quoi. Il y a quelque chose comme ça. On rentre un peu dans le salon des fans.
Je pense qu'on ouvre la dernière porte du sport français où on rentre dans une autre catégorie et où, alors après, c'est toujours la différence, c'est que je me suis toujours appartenu à moi-même. Tout a été, enfin, c'est moi qui prenais mes choix, etc. Mais c'est sûr que le regard des gens, enfin, il y en a, j'ai des anecdotes comme ça, mais j'ai une fois à l'entraînement, un mec qui là, il me dit, il m'encourage et il me dit, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour la France.
On fait pas la pression.
Quelques semaines avant, je sais plus, championnat d'Europe ou championnat du monde. Tu vois que c'est quelque chose de différent. Alors moi, j'ai toujours fait pour moi, donc ça m'a pas posé de problème. Mais tu sens que voilà, t'as ce côté français, enfin nation, qui en prend une couche supplémentaire. Quoi.
Marc, toi, quand tu gagnes Paris-Roubaix, t'as gagné Paris-Roubaix deux fois, on rappelle. Non, mais encore aujourd'hui. C'est des choses qui te définissent en fait. C'est des moments qui changent ta vie.
Marc Madiot, double vainqueur de Paris-Roubaix. On te présente souvent comme
ça. Oui, alors changer la vie, je dirais pas que ça change la vie, mais ça t'accompagne la vie. La vie quotidienne, j'ai la vie quotidienne de Monsieur Tout le Monde. Je vis comme tout le monde, donc ça change pas fondamentalement. On dit ça change la vie, c'est un terme un peu exagéré. Par contre, le fait d'avoir gagné des titres. Que ce soit à Roubaix ou des Jeux ou un titre de champion du monde ou autre, ça t'accompagne toute ta vie. Comme je dis souvent en plaisantant, Roubaix, je l'emmènerai avec moi au cimetière. Et je sais que quand on célébrera mes obsèques, on fera référence à Paris-Roubaix.
Ouais. On mettra des pavés, on mettra pas des
genres de
fleurs.
Tout, mais après,
ça va être fun. Hein.
Après, la vie change pas fondamentalement.
Non mais Fred, finaliste des Jeux, médaillé d'argent à Sydney. Est-ce que t'en étais conscient en fait? Est-ce qu'on est conscient sur le moment en fait?
Alors sur le moment, moi pas du tout. En fait, c'est comme une compétition un peu comme les autres, mis à part que tu rencontrais d'autres athlètes. En fait, moi quand je pense aux Jeux Olympiques de Sydney, c'est quand j'ai mangé en face de Mohamed Ali qui m'impressionne le plus réellement, parce que c'est quelque chose qui était incroyable, qui était fantastique, et tu côtoies des athlètes incroyables. Bon, j'ai même eu la chance de côtoyer David Douillet. Alors pour vous dire à quel point c'était incroyable.
Référence.
C'est vrai que c'était un vrai gringalet à l'époque, toujours. D'ailleurs, mais je sais pas si on se rend compte. En plus, nous, c'est sur une défaite, c'est un peu particulier. Mais c'est vrai que.
Oui, mais
que
en France, on adore les losers magnifiques.
Oui, mais en plus, nous gagner en basket,
c'est quasiment impossible.
Team USA, pour nous, c'était une montagne impossible à gravir. En tous les cas, à l'époque là, et c'est vrai que chaque fois que je me déplace maintenant, effectivement, je suis comme Marc. Ben, je pense que ça va me suivre jusqu'à la tombe. On dit médaille olympique aux Jeux Olympiques de Sydney. Ça faisait 56 ans que c'était pas arrivé en France qu'en basket on ait une médaille olympique. Et donc d'un seul coup, est rentré chez les gens.
Tu t'en rends compte plus aujourd'hui encore.
Mais oui, parce que les gens m'en parlent beaucoup. Moi, je sais même pas où est la médaille, parce que comme vous savez, je suis pas très matérialiste, je sais pas du tout où elle est.
Renaud, elle est dans sa casquette là. Elle accompagne toujours avec.
Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais je me rends compte que 26 ans après, parfois quand je prends le métro, des gens m'arrêtent en me disant c'est génial, c'était épopée à Sydney, c'était incroyable, merci pour ce que vous avez fait pour le basket à l'époque, parce que on se rend compte que maintenant le basket fonctionne très bien, on vient d'enchaîner deux médailles d'argent olympiques, sauf que ça faisait énormément de temps qu'on l'avait pas fait, et d'un seul coup on a mis le basket sur la carte mondiale, parce que les Jeux Olympiques c'est un milliard de personnes, c'est des gens qui regardent tout le temps, en plus nous on finit, c'est quasiment une des dernières épreuves, donc tout le monde se rappelle du basket, tout le monde a vu le basket. Et c'est vrai que tu peux aller partout dans le monde.
Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est que parce que effectivement ça vous définit vos victoires, vos carrières en général. Et c'est vrai que le danger qu'il peut y avoir aussi, c'est que on vit dans la nostalgie. On vit dans la nostalgie peut-être de ces grandes victoires. Non, mais je sais pas à quel point. Déjà un truc très simple. Est-ce que ça vous est arrivé de revoir vos matchs, vos victoires, vos moments? Non, mais ça arrive ou pas?
Très rarement.
De revoir ces moments. Ou est-ce que c'est imposé à vous parce que vous participez à une interview à quel Roubaix, point ça nous accompagne en fait?
Le deuxième Paris-Roubaix que je gagne, je ne l'ai revu qu'au moment du Covid.
Ah oui?
Pourquoi? Oui, parce qu'ils ont rediffusé.
Parce qu'ils rediffusaient. Et donc, je me suis retrouvé dans
le canapé. Mais c'est moi, ça.
Ça a été un moment spécial parce que je me suis retrouvé dans le canapé avec mon fils.
Ah oui? Tiens, c'est toi, tu regardes, c'est moi.
Ah non, mais là, du coup, c'est hyper intéressant.
Eh ben, c'est génial, ça. Perturbant.
Ah ouais?
Ouais.
C'est émouvant.
Ça m'a perturbé parce que, en fait, mon fils, bah oui, il avait dû lire ou apprendre que j'avais gagné Paris-Roubaix.
Tu l'as eu tard, hein, il n'était pas né au.
Il n'était pas né à l'époque. Et c'est la première fois qu'on s'est retrouvé devant, pendant une heure, à regarder Paris-Roubaix 91, et il était avec moi dans le canapé.
Et il disait quoi? Il disait, allez, Mathieu!
Non, non, il regardait les images et il me regardait.
C'est vrai? C'est un peu comme regarder Titanic, tu connais la fin déjà.
Attends, il te regardait, toi t'étais comment en regardant ça?
Eh ben, c'est quand même très spécial.
Ah ouais?
Très, très spécial.
C'est fierté quand même.
T'as les poils.
Ouais.
Ah ouais, tu vois l'émotion dans le regard.
Et j'avais jamais revu en fait. Et
moi j'ai hâte de vivre ça. Je comprends. Revoir ces matchs, ça n'a aucun intérêt tout seul. Mais par contre, ouais. Moi j'ai hâte que mes filles grandissent pour qu'on puisse les regarder ensemble.
Mais Renaud, t'as déjà revu les finales des jeux
et au bout du compte, c'est ma femme qui nous regardait les deux. Elle regardait le mari et le fils.
Elle vous a filmé.
Elle vous a pas filmé. Je me rappelle plus.
Non mais Renaud, quel rapport avec les images, avec les moments. Tu revois parfois?
Oui, oui.
À un moment de blues, tu dis attends, mais j'ai gagné un truc quand même.
Non, moi, il y a deux façons de le regarder. Il y a le côté un peu, bah, comme on disait, nostalgie, où tu refais un peu les moments, etc. Tu revis l'émotion. Et puis, il y a aussi le côté un peu technique. Moi, je sais que le saut des jeux, je l'ai regardé, mais des centaines de fois, juste parce que dans les mois, années qui ont suivi, c'était aussi un moment clé d'inspiration où, avant un grand championnat, avant un gros meeting que j'allais faire, je me remettais ce saut-là parce que je savais que c'était... qu'il fallait que je refasse la même chose ou pas loin. Donc du coup tu le regardes pas de la même manière. Par contre, quand tu te retrouves, je sais pas, invité à une cérémonie, etc., forcément ils vont mettre un de ces sauts là en avant, et là c'est pas du tout le même regard. C'est parce que derrière, après, les gens ils vont tous te dire oh, je me souviens, j'étais à tel endroit quand je l'ai vu, c'était dingue. Et ça, en fait, c'est ça te donne des émotions qui sont différentes. Et je rejoins un peu Marc d'ailleurs. Alors, j'étais pas dans mon canapé, mais j'ai mes enfants, j'ai ma fille qui va avoir 9 ans, donc qui commence à bien comprendre les choses. Et quand elle se retrouve avec moi et qu'on va lui parler de ça, ou elle va le voir, tu regardes dans les yeux de ton enfant, et là, en fait, ça prend une dimension qui est encore différente et qui est extraordinaire. Et donc, ouais, franchement, je me cache pas de le saut, je le revois à minima une fois par an, mais quand même un peu plus.
Il y a aussi ce record du monde que tu bats. On l'a vécu, nous, de manière particulière sur RMC, parce que Nico Jamin était sur place à Donetsk. Alors là, il n'y avait pas grand monde. Hein. Toi, tu avais décidé de tenter de battre ce record. Et on l'a vécu en direct sur RMC. Ça a été un moment extraordinaire.
Ah, fou,
de commentateur sur place. Et on était pendant les Jeux Olympiques de Sochi.
Ouais, puis c'était le week-end où il y avait le brouillard, il se passait plus rien.
Ouais, c'est ça.
Et d'ailleurs, moi, c'était assez marrant, c'est que quand je suis rentré, les gens ils pensaient que j'avais été champion olympique à Sochi. Enfin, ils font la bascade, etc. Enfin, c'était, en plus, on était à Donetsk en Ukraine, donc c'était pas très loin. C'était assez marrant. Et ouais. Et puis Nico, je crois qu'il a toujours pas récupéré sa voix depuis.
Là, même Marc, ça te faisait réagir ce que disait Renaud.
Oui, parce que par exemple, Paris-Roubaix, il y a des images qui durent 10-15 secondes après le secteur d'Arenberg, pas toujours en 91, où je recommande à mes coureurs qui vont faire Paris-Roubaix d'aller regarder cette dizaine de secondes d'images après le secteur du Carrefour de l'Art, pardon, par Arenberg,
oui,
du Carrefour de l'Art. Parce que, en fait, ce que j'essaie toujours de leur transmettre, c'est que à Paris-Roubaix, quand on est coureur cycliste, le plus important, c'est pas soi-même. C'est le vélo sur lequel on évolue. Vous pouvez être le meilleur, le plus fort, le plus grand. Si vous cassez votre vélo, et on l'a vu cette année avec Van Der Poel, il a cassé, il a pas gagné. Donc si vous voulez gagner Paris-Roubaix, faut d'abord penser à son vélo. Prends soin de ton vélo. Et je les renvoie à cette petite séquence d'une dizaine de secondes où, en fait, je leur dis, vous voyez là, les gars, je suis à bloc. Je pense pas à moi. Je pense à mon vélo. Et l'image le montre.
T'as les mêmes rapports avec tes perches, voilà. Renaud?
Bah, pareil, hein, la perche, si tu la casses, si tu l'abîmes ou quoi, ou t'as pas confiance en elle,
t'es mort.
C'est mort. Donc il faut être capable de se projeter et de tout lui donner.
Ah, mais...
Et ouais, c'est le rapport avec le matériel. Enfin, dans les sports, là, on est en moto, c'est pareil. T'as les motos. Si t'es pas capable de te livrer à elle à 100%, bah, t'arriveras à rien, quoi.
Tiens, on est en 2014, on était à Sochi et il s'est passé ça.
La course d'élan de Renaud Lavillenie, le sprint, la vitesse du champion olympique français à 6m16, pourquoi pas? Ah, record du monde! Record du monde! Renaud Lavillenie est le nouveau recordman du monde du saut à la perche! 6m16! Sergueï Boubka est debout! L'ovation hystérique, les mains sur la tête, il est croqui!
Il est groggy, hein, mais tout le monde était groggy. C'est vrai qu'en plus, ça fait ça sous les yeux de Boubka quand même. Non, mais
ouais, pas mal.
Chez lui,
pas
quoi. Mal.
Bah, tu vois, j'avais rien demandé. Hein? Bim, encore une fois, je le récupère.
Non, mais voilà, c'est des moments qui t'accompagnent pour toujours. Bon, Renaud, merci beaucoup. On se revoit bientôt à la perche, évidemment.
Ouais, on se revoit cet été. J'attaque première compétition dans 2 semaines, là, en Pologne. Et voilà, objectif, préparer les championnats de France qui ont lieu fin juillet à Albi pour tenter de décrocher la qualif pour les championnats d'Europe qui ont lieu le 15 août. Donc voilà, après la belle 8e place que j'ai eue l'été dernier au championnat du monde, l'objectif c'est de continuer sur la lancée. Donc voilà, il n'y a pas encore
de date de garder quand même
jusqu'à 2028.
Et ben c'est qui
jusqu'à là où je peux. Donc
si ça se passe
tant
bien,
que mon corps m'amène,
tant que t'es bon, tant que tu performes, tant que tu nous fais rêver, moi.
Non, mais l'objectif, oui, 2028, il est dans un coin de la tête. Donc, oui. Mais voilà, faut pas penser à 2028 sans préparer 26 et puis après 27 et puis.
Oui, mais je veux dire, c'est vers quoi tu voudrais tendre?
Jusque même 2029, 2030, si jamais, sait jamais. Mais bon, pour l'instant,
c'est... Tu veux faire de la moto,
il veut pas gagner longo, en fait.
À 70 ans, c'est plus dur. Hein.
Non, mais c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime. Le corps, pour l'instant, me suit. Et donc, voilà, je continue. Les perfs sont encore au rendez-vous. Donc, voilà, je sais qu'après la perche, je pourrais plus en faire à plus haut niveau, donc faut que j'aille jusqu'au bout. Puis c'est ce que j'aime tous les jours, donc je vais pas me plaindre. Hein.
T'as vu que Mando Duplantis maintenant, quand il est à Monaco, il dit tiens les gars, je suis dans le coin, vous pouvez pas quand même faire un petit concours pour moi? Non, il est là.
Ouais, hein. C'est logique, hein, c'est de bonne guerre, mais c'est cool parce que
Il met la perche partout.
Exactement, ouais. Ça nous met vraiment la perche masculine au plus haut niveau et puis partout avec une visibilité qui est dingue. Donc nous on en profite, hein, on a des super conditions. C'est cool.
Monter à 6m40, tu penses, Mando?
De toute façon, il a montré qu'il n'avait pas de limite. Donc, bon, pour l'instant, il y a 31. On sait que ça va y aller par centimètre. Moi, j'avais prédit aux alentours de entre 33 et 35. Donc, bon, il va s'en rapprocher, il va les faire, j'en suis quasiment sûr. Après, il est encore jeune, je pense qu'il a encore 2-3 années devant lui pour être vraiment performant. Mais de toute façon, si lui, il pense qu'il peut le faire, j'ai aucun doute sur le résultat, donc on peut lui faire confiance. Jusqu'à présent, il a tout éclaté. Faut savourer. C'est un moment qui est quand même assez extraordinaire, quoi.
Bah non, mais quand même complètement irréel. Hein. Là, pour le coup, on a réécouté ton 6m16 à l'époque. Ça nous avait. Non, mais notre cerveau avait explosé. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Là, maintenant, en train de se poser les questions à 6m40, c'est n'importe quoi. Pour mon Duplantis, qui a 26 ans, hein, je crois encore. Donc, ouais. il a la vie devant lui. Et toi aussi, on a bien compris. Parce que tu vas sauter jusqu'à la mort. Bon, merci Renaud d'avoir été avec nous. Tiens, avant de sortir, tu peux essayer de sauter au-dessus de Fred Veil. Je pense que c'est le plus grand défi de ta vie. Pour essayer de rejoindre les tribus. Merci Renaud, évidemment. Bah, kiff, hein. Kiff en moto, kiff à la perche. J'ai l'impression que c'est le sens de la vie, finalement, et de ce que tu as envie de faire. Et c'est ça qui est génial de pouvoir transmettre à nos auditeurs et auditrices. Les grandes gueules du sport reviennent dans un instant avec Fred, avec Christophe, avec Sarah, avec Marc, et vous au 32-16, évidemment. On va parler de la Ligue 1 avec ce soir l'avant-dernière journée. Et puis on a un œil, évidemment, sur la moto, MotoGP à 14h, et la Moto 3 en ce moment sous une piste détrempée. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport, en direct du MotoGP de France.
Georges Quirino.
Avec les éclaircies désormais sur le circuit de la Sarthe qui sont en train de sécher la piste ici sur le circuit Bugatti du Mans. La course en Moto 3 qui vient de se terminer, la Moto 2 va enchaîner et ensuite ce sera tout à l'heure 14h. La Moto GP à suivre sur RMC avec Fabio Quartararo qui partira 5e, Joan Zarco vainqueur l'an passé, 10e, Maximo Quiles, l'Espagnol, vient de s'imposer il y a quelques instants chez la catégorie Moto 3, donc sur cette piste. On est toujours avec Fred Weiss, avec Christophe Cessieux, avec Sarah Pitkowski, avec Marc Madio. Marc, tu te régales toujours à voir les motos là, franchement, c'est impressionnant.
C'est impressionnant, hein. Ouais. Ils vont bien. Hein.
C'est ça. Et Renaud, il nous a impressionné quand même il y a quelques instants. Hein. Renaud Lavillenie, motard, quoi, en fait.
Motard, en fait.
Non, mais c'est.
C'est un motard qui fait de la perche. Non, c'est pas un perchiste qui fait de la moto.
Non, mais c'est ça, mais qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre, Fred?
La perche.
Du catch. J'aurais bien vu affronter Hulk Hogan.
André le géant.
André le géant.
Ça aurait été magnifique.
Ah ouais, mais là, c'est incroyable. Le choc des titans. Fred Weiss contre André le géant. Par-dessus la troisième corde. Incroyable. J'aurais vraiment envie de voir ça. Allez, les amis, on est évidemment dans la dernière ligne droite des grandes gueules du sport. Dans un instant, les jeux. Là, c'est très important. On va commencer à être très, très, très sérieux. Mais d'abord, c'est la dernière semaine de votre feuilleton de la Ligue 1.
RMC, les GG sur le buzzer.
Tolisso, le but. Corentin Tolisso qui touche le Vélodrome. Chevalier, attention, le but marseillais, le but de l'Olympique de Marseille.
De Connor Hanson, la passe de Fernandez Pardo, deuxième poteau, les Lillois font enfin la différence. Hanson Edouard au niveau du point de pénalty.
La Ligue 1, Ligue 1, Ligue 1.
Bien joué, ça.
Je crois que les paroles, c'est pas tout à fait ça.
Non, c'est pas ça.
Mais c'est vrai que bon, elle était excitante, cette Ligue 1. Vous avez vu, on a quand même fait monter les décibels tout au long de la saison. Une saison qui avait difficilement commencé. Hein. Souvenez-vous, les débats qu'on faisait au début. C'est la saison de la peur. Il y a pas de diffuseur, il y a pas d'argent. Il y a toujours pas vraiment de diffuseur, hein, parce que c'est la Ligue qui diffuse désormais, qui a monté sa propre chaîne. Il y avait pas de garantie financière pour les clubs en grande difficulté. C'est vrai que là, on est le 10 mai, donc au matin de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Qui sera à suivre ce soir sur RMC avec Jean-Louis Tour, qui sera aux commandes des 8 matchs dans l'After Live. 8 matchs avec, tiens, je vais vous donner quelques enjeux. Il y a le titre, évidemment, PSG-Brest à 21h, hein, le PSG qui n'est pas encore sacré, puisque Lens retarde ça à chaque fois. Il y a la course à l'Europe avec Toulouse-Lyon, avec Rennes-Paris-FC, avec Monaco-Lille, très important. Le Havre-Marseille, avec tout ce qui se passe à Marseille. On n'arrive même plus, en fait, à faire des débats, tellement il se passe des choses à Marseille en permanence. Christophe aimerait en parler tous les week-ends. Et le maintien, évidemment, avec Auxerre-Nice.
On va faire oublier Nice.
Voilà, Auxerre-Nice. Attention, match déterminant pour le maintien. Avec une place de barragiste en jeu, en fait. Hein, parce que si Auxerre gagne, il reviendra à hauteur de Nice. Il y a Metz-Lorient également et Angers-Strasbourg. Les GG, je vous pose la question, là, parce qu'on est un peu à l'heure du bilan, déjà. Est-ce que la saison de Ligue 1 a été excitante pour vous, Sarah Pitkowski?
Bah, moi, je ne me suis pas ennuyée du tout.
Je ne suis pas ennuyée.
En tout cas, il y avait de quoi débattre tous les week-ends pour les GG.
Ah, ben bah, ça, oui. C'est vrai que ça a souvent concentré un club, hein, malheureusement, qui a un peu monopolisé la tâche.
Non, mais même sur le plan sportif, il s'est passé des choses.
Ouais. Fred Weiss.
Oui, ça va, plutôt.
Oh là là.
C'est pas un foufou, mais ça va.
Plutôt oui, ouais.
Christophe Cessieux.
Plus excitante que les précédentes, mais elle souffre de la comparaison avec la Ligue des Champions.
La Ligue des Champions, c'est la même chose pour tous les pays.
On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Tiens, bah, allons là-dessus. Pourquoi peut-être pas forcément aussi excitante de par la place que prend la Ligue des Champions maintenant.
Aujourd'hui, oui, c'est ça. L'événement football de la semaine, c'est le match. Surtout quand tu rentres dans les phases finales, comme en ce moment, tout le monde ne parle que des exploits du PSG. Quand tu as un PSG Bayern, un PSG Arsenal, c'est quand même plus excitant que
une compétition plus longue maintenant, on rappelle, depuis 2 ans, avec plus de matchs en phase de groupe.
Oui, et les équipes françaises qui vont plus loin aussi.
Et puis un niveau de jeu atteint, je veux dire, le match aller du PSG Bayern, jamais t'atteindras ça en championnat. Alors évidemment, tu souffres de la comparaison. Mais malgré tout, c'est vrai que cette Ligue 1, cette année, nous a quand même apporté son lot de pas de consolation, mais
d'incertitude.
Un petit pain quotidien. Voilà, bien sûr. Heureusement qu'on a ça. C'est notre feuilleton à l'année. C'est
oui, mais moi je trouve que cette année, il y a eu un véritable feuilleton. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses. On pensait que, encore une fois, que le PSG allait tout écraser. Moi, aujourd'hui, Lens m'a ravi toute la saison, mais pas uniquement.
C'est ton côté ch'ti, ça, c'est.
Aussi.
Je rappelle que ce matin, le Paris Saint-Germain n'a que 3 points d'avance sur Lens.
Exactement.
Si jamais ils perdent, il y a Lens-PSG mercredi avant la dernière journée.
Encore en février, le 21 février, il y a ce match. Moi, c'est ce match où Lens-Monaco, où Lens mène 2-0 et ils peuvent prendre la tête du championnat. Et ils finissent par perdre 3-2. Et on se dit, mais Lens ne va pas s'en remettre. Ils ont perdu l'occasion de prendre la tête.
On a fait un débat ici pour dire, est-ce qu'ils vont s'en remettre.
Et donc, voilà. Et donc, je trouve que Lens, ils étaient sur 10 victoires à domicile, je crois. Enfin, bon, ils étaient sur une lancée incroyable. Mais après ça, il y a.
C'est vrai que toute la saison, on s'est dit, est-ce qu'il y a vraiment un feuilleton du titre, finalement?
Mais il y est.
On l'a quand même.
Mais
je pense que la Ligue a quand même scier la branche sur laquelle elle est installée. En reportant ce match, là, en milieu de semaine, si, tu te rends compte si on joue pour le titre, là.
Oui, c'est vrai, tu as raison.
Mais franchement, tout ça.
Mais
pour,
parce que, comme tu dis, la Ligue des Champions.
Promouvoir la Ligue des Champions.
On rappelle que Lens PSG avait été reporté pour permettre au Paris Saint-Germain de mieux préparer ses matchs de Ligue des Champions.
Ouais, puis on a quand même eu Marseille qui nous a bien occupés.
Oui, mais c'est parce que c'était mouvementé. Mais réellement, c'était parce que
tu passais pour quelque chose.
Parce que peut-être t'avais toujours l'impression
que ça fait partie du championnat. Tu te dis, et pourquoi pas?
Oui, mais ça, c'est, dès le début de saison, il y a eu quand même des galères. Et en fait, le feuilleton, c'était plutôt le Mistral, hein. Parce que c'était très compliqué. C'était le bordel.
C'était la vie à Marseille.
Ils ont quand même battu Paris.
Exactement.
Oui, au début, tu commences à y croire un petit peu. Puis après, tu.
Donc, c'était un bon championnat.
Ben je sais pas parce qu'au à la fin Marseille ils sont pas là.
À la fin on connaissait la fin.
Lens a surperformé. La finale de championnat finalement elle est décalée.
Regarde la coupe de France c'est pas du tout ce qu'on attendait en Coupe de France. On pensait que le PSG allait être là. On pensait que Marseille quand le PSG perd on dit mais l'OM a une super occasion d'aller chercher un titre.
Et
finalement
c'est
non.
Qui va gagner le titre.
Mais
c'est quand même incroyable.
T'emballes pas non plus. Hein, t'emballes pas non plus. Non mais il y a même Lyon ils étaient au fond de la cave. On se demandait même s'ils allaient jouer le championnat et finalement ils sont en train de jouer l'Europe. Donc, en fait, il y a eu plein d'histoires dans ce championnat qui ont fait qu'on n'a pas que focalisé
sur le PSG.
C'était
des mini-stories, quand même.
Mais qui écrase.
Ça fait partie du quotidien.
En fait, on a eu des petites informations quotidiennes, on a eu des petites choses à picorer. Mais c'est ça,
non, jamais, pas picorer.
Honnêtement, alors, ça nous a pas fait rêver.
En fait, c'est important qu'on ait ce débat aussi parce que quand on parle du pouvoir de séduction de la Ligue 1, on parle de la qualité du produit aussi. Justement, est-ce que tu peux réussir à vendre
un
diffuseur pour que ça prenne un peu plus de valeur? Regardez.
Ben on dit Paris. Mais moi, on a quand même eu des matchs, même au Parc, où des équipes qui venaient soi-disant battues à l'avance ont fait des bons matchs.
Non, mais c'est ça, il faut casser les idées reçues sur le spectacle de la Ligue 1. Il y a du spectacle
aujourd'hui,
et les entraîneurs qui prennent des risques.
Très bien.
Moi, je suis très content pour Pierre Sage, par contre. Franchement, la saison qu'il fait avec Lens, elle est fantastique. Ouais. Effectivement, la finale de la Coupe de France, oui, c'est super, mais arrêtons un petit peu, soyons honnêtes. Ce qui nous a plu, c'est le bordel à Marseille. Comme c'est toujours le bordel,
ça
finalement, c'est
pas
plus excitant que d'habitude.
Ça nous occupe.
En fait, ce qui nous plaît, c'est évidemment pas, je leur souhaite pas ça, mais malheureusement, c'est la vie est mouvementée à Marseille, on va dire. Donc, c'est un peu habituel. Donc, forcément, ça va pas plus excité que d'habitude. Je sais qu'il va y avoir un feuilleton. Je sais que ça va être le bordel. Je sais que les coachs vont virer. Les joueurs vont être critiqués.
Mais là, tu parles du hors-sport.
Il va y avoir des extincteurs partout.
Non, 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 non,
une saison de Ligue 1 comme une série Netflix en fait.
Ben oui, bien sûr.
C'est un peu ça.
Il y a eu du sport aussi.
Oui.
C'est ça qui est important pour la Ligue 1. Mais pas que Lens.
Lens, ça a été cool.
Mais Lyon,
ouais, mais
il y a
le championnat, c'est pas que du sport. C'est toute une histoire autour du sport. Mais c'est pas que du sport. On vient de parler longuement de Marseille, mais c'est pas que du sport.
Mais
c'est aussi la vie, quoi.
Mais c'est la vie
c'est
à Marseille.
La vie de Marseille qui ressort. Différents talents, etc. Et c'est ça qui est sympa, je trouve.
Parce que regardez, là, au matin de cette 33e avant-dernière journée, effectivement, on a parlé de la course au titre. On a parlé de la course au maintien avec Auxerre et Nice qui vont se battre pour la place de barragiste. On rappelle que Nantes est condamnée comme Metz également. Mais la course au podium, là, elle est encore vivante, hein, ce matin, avec Lyon, Lille et Rennes qui se tiennent en 4 points, évidemment, avant cette dernière journée. C'est vrai que la qualité, en tout cas, du spectacle, a augmenté quand même. On a l'impression depuis quelques années, alors qu'on disait souvent qu'on s'embête sur les matchs de Ligue 1.
Non, puis on n'a pas des matchs fermés, hein. Il y a des matchs ouverts. Même au Parc, les équipes viennent pour jouer. Non, mais bon nombre d'équipes viennent pour jouer.
Non, mais on a l'impression quand même que les équipes s'inspirent les unes les autres dans les intentions.
Mais ça, c'est une bonne chose, c'est une belle évolution. Mais de là à dire que c'était foufou, non. Mais effectivement, il y a une belle évolution, ça joue mieux. On a moins peur de se déplacer et d'aller au Parc, ça je suis d'accord. Camboré qui sauve le Paris FC, aussi plutôt très, très, très sympa aussi.
Oui.
Mais enfin, qui sauve un peu quand même. Mais voilà, il y a plein de choses qui ont été intéressantes, mais c'est pas fou.
Le patron de Canal+, Maxime Saada, a dit cette semaine qu'ils étaient intéressés l'année prochaine, en tout cas, d'intégrer peut-être au bouquet des chaînes Ligue 1+, donc la chaîne de la Ligue qui va récupérer, on rappelle, tous les matchs la saison prochaine, hein, puisque Bein n'aura plus le match en plus pour aller chercher un public plus important encore. Est-ce que ça va être déterminant pour la Ligue 1? Parce que là, on en parle comme ça en fin d'émission, mais voilà, on sait que le nombre d'abonnés abonnés plafonne un petit peu. Il y a eu un petit peu plus d'un million. Ligue 1 Plus ne va pas diffuser la Coupe du Monde cet été, donc ça va être toute une séquence où il n'y aura pas de match à part des matchs de préparation des clubs. La Ligue 1 a besoin aujourd'hui de plus d'exposition.
Mais
très clairement.
C'est évident. Au-delà de plus d'exposition.
Bah, oui, mais à travers ça.
Elle a besoin de plus d'exposition.
Hein. Faisait un gros chèque quand même. Hein.
Mais le fan de foot, il a besoin de savoir où est-ce qu'il va voir les matchs. Et que ces dernières années, on ne comprenait plus rien de savoir où on devait s'abonner, quel match on allait voir. Je pense que la diffusion de la Ligue 1 a besoin de retrouver de stabilité, des rendez-vous. On fonctionne par rendez-vous.
Et retrouver CanalSat, c'est une étape importante.
Et retrouver le fait d'avoir une.
Ça existe encore, ça, CanalSat? Le bouquet Canal. Je peux regarder sur le Minitel si vous avez le programme de.
Et regarde encore Antenne 2, Marc.
Avec le râteau à l'époque.
Oui. Non, mais l'important aussi, c'est les histoires. Voilà, on a expliqué la montée du Mans. Effectivement avec des histoires, des propriétaires, avec derrière.
Non mais tu vois, évidemment tu dis, des joueurs, championnat, mais là c'était pas terrible et tout. Je suis désolé, mais regarde le moment qu'on a passé hier soir. On avait des supporters du Mans.
Bah ouais, c'était hyper sympa.
Tu avais ce qui est le vrai championnat. Ce qui est le championnat de France de foot.
Je suis complètement d'accord avec toi. Mais là, on parle de Ligue 1, c'était de la Ligue 2.
Oui, mais justement, ils accèdent à la Ligue 1.
D'accord, mais on est en train d'évaluer la saison de Ligue 1. Donc, je peux pas. J'ai du mal à
dire. Les championnats sont intégrés, en fait. Tu sais, quand tu performes en Ligue 2, c'est pour aller en Ligue 1.
Évidemment.
La joie des supporters mensaux, c'est justement d'atteindre l'élite. Donc, ça fait partie du truc.
Mais avec un peu de chance, on va retrouver un Lyon-Saint-Etienne.
Exactement, parce que Saint-Etienne est dans les barrages, on rappelle, pour essayer de
mais Marc, Nice reste en Ligue 1, tu rigoles ou quoi là ?
Marc, t'as raison. Non mais t'as raison de préciser ce qu'on a vécu au Mans. Non mais ce qu'on vit au Mans, est-ce que peut-être vous allez voir des images ? On va voir les joueurs paradés, on rappelle à tout à l'heure. Tout à l'heure, Claude Michi nous l'a dit. Les joueurs qui sont montés, ça nous rappelle aussi l'ancrage local et l'importance des clubs de foot encore aujourd'hui. Regardez tous les stades. Geoffroy Guichard à Saint-Etienne est rempli en permanence. L'Abbé Deschamps à Auxerre est rempli en permanence. Allez dans les différents stades à droite à gauche en Ligue 1 ou en Ligue 2, et ça reste aujourd'hui le rendez-vous, même si on sent qu'il y a un désamour parfois pour le foot.
Oui, mais il y a un art de vivre par rapport au championnat. Il y a un art de vivre par rapport au club.
Et souvent, les jeunes apprennent la géographie de la France à travers par les clubs de foot qui structurent notre pays.
Bon, l'important, ce serait aussi que économiquement, ça tienne mieux, parce qu'on avait vu les derniers résultats d'ADNCG notamment. Évidemment, avec les droits télé en baisse, il va falloir être inventif encore plus les années prochaines. Et on a vu, par exemple, les Lensois l'ont été et ils ont terminé. On ne sait pas s'ils ont terminé deuxième, mais ils peuvent encore être premiers peut-être, parce que le suspense est total. On le rappelle, 33e journée de Ligue 1 ce soir autour de Jean-Louis Tour, Afterlife Multiplex à 21h. Évidemment, Lens PSG, c'est mercredi. Hein, ce match en retard avant la dernière journée le week-end prochain pour savoir qui va être champion de France, qui va terminer sur le podium et qui va descendre en Ligue 2. Dans un instant, les jeux du sport arrivent. On est toujours au circuit du Mans. Je vous rappelle, il y a le podium de la Moto 3 actuellement. La course en Moto 2 va se poursuivre. Ensuite, la Moto GP, la catégorie reine à 14h avec Quartararo 4e et Zarco qui partira 10e vainqueur l'année dernière. On va suivre ça sur RMC évidemment avec vous. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Georges Quirino.
En direct du Mans, bientôt en Ligue 1, ça va être officialisé définitivement. On rappelle, ils se sont imposés hier et bon, il y a eu un envahissement de terrain à Bastia, donc on attend que le score soit entériné. Mais les Mansots vont défiler à 13h ici sur le circuit MotoGP où va avoir lieu la course à 14h. Les tribunes sont remplies, plus de 300 000 personnes sous le soleil qui est revenu à la piste détrempée. Ça va être intéressant de voir tout à l'heure nos Français Quartararo et Zarco vainqueur l'an passé. Tout de suite, les jeux du sport.
RMC, les jeux du sport.
Là, la piste est toujours glissante, surtout quand Christophe Cessieux est là. Je vous rappelle le principe, 2 contre 2, et vous allez défendre un auditeur. Répartition. Regardez,
il m'a dégagé parce que j'étais à côté de lui, il pensait que j'allais tricher.
Ouais. Mais
c'est une réputation terrible.
Et t'as déjà vu un concurrent faire la question qui veut gagner 2 millions à côté de Jean-Pierre Foucault?
Pour
faire question pour un champion à côté de Julien Lepers?
Mettre de l'autre côté du circuit, je suis quand même.
Allez, répartition des équipes. Christophe Cessieux avec Fred Weiss.
Ah, c'est une équipe qui gagne.
Il se tape dans la main. Mais Sarah Pitkowski avec Marc Madio.
Allez, Marc.
Évidemment. Tranquille. La force tranquille et la force pas tranquille. Question impossible, activable par un seul joueur par émission. Je vous rappelle, il est le seul à jouer. Une bonne réponse, c'est 3 points. Une mauvaise réponse, c'est moins 1 point. J'accueille les auditeurs Alan et Jérôme au 32-16. Salut, les amis.
Bonjour à tous. Salut les amis.
Bonjour.
Alan, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe avec Pitkovski, Madio ou Cécio Weiss.
Christophe Fred, s'il te plaît.
Ok, c'est Sieveis avec Alan. Et donc, Jérôme, tu es avec l'équipe Pitkovski. Madio, je rappelle qu'aujourd'hui, vous pouvez gagner une enceinte portable minotée au design épuré de la marque Lexon, qui a une particularité, Fred.
Il a un mousqueton.
Exactement, tu peux l'accrocher à la ceinture. Allez, question à une seule réponse, les amis. Une seule réponse. Quel accessoire est primordial pour faire de l'escalade?
Non, non, mais c'est pas possible.
Ça aurait pu être comme Stéphanie de Monaco et se tromper, mais là, je l'avais.
C'est bien ça. Voilà. Un point pour l'équipe, c'est Cécio Weiss. Christophe, ça le fait marrer, mais si le point avait été contre son équipe,
non, aimé,
mais qu'est-ce que c'est que ces questions? C'est n'importe quoi. Ça devient
un plaisir. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette question?
Question à une réponse. Qui est dernier de Ligue 1?
Metz.
C'est moi.
Non, c'est nous là.
Non.
Là, non.
On va demander au producteur.
Attention, parce que Maxima Bola reçoit une menace physique de Marc Madio.
Ouais, mais je suis beaucoup plus costaud que Marc.
On me dit Fred Weiss.
Évidemment.
Voilà, 2-0 pour l'équipe.
Et d'ailleurs, je suis très triste. En tant que Lorrain, je leur souhaite du courage.
Ça n'a pas l'air bien triste.
Oui, pourtant.
Ok. Pourtant. Question auditeur pour vous, Alan et Jérôme. Vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom, comme ça je peux savoir qui a donné la réponse. C'est ok pour vous?
Ok.
Qui est le dernier vainqueur français en MotoGP?
Jarko, Alan.
Bien joué, Alan. 3-0. Ouh là là, attention.
On arrête là, non? Il y a Fanny, non?
Je vous rappelle qu'il y a la question impossible qui est activable. 3-0, on vous a encore le temps.
Tu sais que c'est la question impossible?
Oui, je connais, mais je ne vais pas y arriver. Hein.
Mais si, c'est que des questions. C'est des questions anciennes sur ton sport. Tu vas tout connaître.
Mais toi aussi, tu peux.
Attendez, on perd du temps, là. Vous avez même trop.
Non, mais continuez, que vous disiez quoi?
Question à une seule réponse. C'est vrai que le Giro se déroule actuellement. Qui est le dernier Français à être monté sur un podium du Giro? Pas facile.
Jalabert.
Non. Ah, ça marche souvent, Jalabert, mais ça marche pas là. Du coup, Fignon. Éliminé. Dernier Français de monter sur un podium.
Alors là, c'est. Non, j'avoue,
je misais tout sur Christophe et Marc. 5, 4, 3, 2, 1. C'était John Gadret en 2011.
Wow. Ah non, oui. Non, mais là,
oui. Il faut que j'avoue, je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur.
John Gadret.
John Gadret.
Ouais, exactement. Question à une seule réponse. Toujours 3-0 pour l'équipe Cécio Weiss. Combien de Jeux Olympiques se sont déroulés sur le continent asiatique? Une
quatre.
Réponse.
4? Oui.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Mais voilà, je suis chaud là.
Oh, bah, j'étais en train de compter.
Incroyable.
Séoul.
Perdez pas du temps. Ouais. Question auditeur, c'est pour vous, Alan et Jérôme. Vous donnez votre réponse et votre prénom. Quel club affrontera le PSG en finale de Ligue des Champions? Arsenal, Alan. Allez, 5-0. Les gars,
vous
avez gagné là. Question élimination, vous l'activez après la question impossible?
Bah, vas-y, fais la question impossible.
Question impossible direct, oui, question impossible de Sarah Pitkovski.
Bah, ouais, il va bien falloir
essayer. C'est 2 points. C'est
3 points. 3 points.
Ah, ouais, mais vas-y, prends tes 3 points.
Ouais, c'est pas sûr là.
Ça va être moins 1. Hein,
Sarah Pitkovski, il reste combien de temps dans l'émission, s'il vous plaît?
C'est fini, c'est la dernière question.
Il reste 3 minutes, donc il reste encore du temps. 5-0 pour l'équipe Cécio Weiss. Sarah Pitkovski, notre consultant de tennis depuis des années. Combien de Masters 1000 de Rome a remporté Rafael Nadal? Une réponse.
Ça va être au pif. Hein. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Je vais dire 5.
5?
Ouais.
Ta réponse?
Ouais.
Et la bonne réponse était... 10. Oh, moins un point.
Est-ce qu'il prend un point en plus, Christophe Cécio, parce qu'il a dit 10?
Non.
Non.
ça fait donc 5 à moins.
Tu pourrais être généreux de temps en temps.
5 à moins. Ah bah on est mal barré.
Allez, question élimination, c'est
non,
parti.
Non, mais on peut pas faire la question impossible.
Eh non, c'est activé par un seul joueur. Tu veux? Allez, on peut. Maxima Bolin me permet une question impossible.
Allez, vas-y,
impossible.
Essaye.
C'est parti, on remet la question.
Vous faites tout pour qu'on perde.
C'est incroyable. Mission Impossible 2. Mission Impossible 2, il manque plus que Tom Cruise. on a une question vélo ou pas? Ah oui, c'est bon. Marc Madio.
J'ai une question basket, moi.
C'est déjà arrivé qu'on n'ait pas la question et qu'on l'improvise. Uniquement basé sur notre culture. Eh oui, si vous croyez. En quelle année Jacques Anquetil a gagné son 5e et dernier Tour de France?
64.
Wow! 5-2, attention, question maintenant à élimination. Eh, vous pouvez revenir, parce que je rappelle, c'est pour 2 points.
Ouais.
Donnez-moi, s'il vous plaît, vous répondez. Alors, non, mais tu ne réinventes toujours pas les règles, Chris.
Non, explique-moi la règle, là. Parce qu'on menait de 6 points, là, dans ce moment.
Il y avait moins 1, il y avait 5 à moins 1, il a marqué 3 points, donc c'est 5-2.
Voilà.
Oui, mais c'est
là, alors, je vais dire. Élimination pour 2 points.
Je suis désolé, mais c'est 2 points.
Non, non, mais attends, il joue la montre.
Mais vous avez changé les règles.
Non, tu joues la montre. La question.
Donnez-moi, s'il vous plaît. tous les Français qui ont porté le maillot jaune depuis 1980 sur le Tour de France. On commence par Christophe Cessieux.
Depuis 1980.
Depuis 1980, tous les Français qui ont porté le maillot jaune. Christophe.
Julian Alaphilippe.
Julian Alaphilippe. Si tu me donnes ce
c'est bon.
Hinault.
Bernard Hinault. Marc, attention Marc. Je te donne la parole. Mais je te respecte.
Mais je.
Fred. Laurent Fignon.
Laurent Fignon, c'est bon. Eh non, mais attends, vous pouvez pas me jouer ensemble, là, Sarah. Sarah. Non, Sarah d'abord.
J'en ai pas.
Alaf.
Non, mais non.
Attends.
C'est bon, maintenant.
Mais je cherche.
5,
je cherche, mais
t'as pas le droit. 2, 1.
Galopin, Tony Galopin. Si, non, mais je l'avais. Je savais qui c'était et je lui demandais le nom.
J'ai un trou là.
Je savais qui c'était, je lui demandais le nom et je pense que ça va pas.
Mais je savais. J'ai un trou de mémoire.
Christophe.
Jalabert.
Jalabert, c'est bon.
Mais non, mais là, je vais être mort. Je sais plus.
C'est à qui là? Ça marche.
Ma sœur.
Ma sœur, c'est bon. Fred.
Pareil que Sarah.
C'est bon.
C'est bon ça. C'est pareil.
Pitchkowski.
Sarah.
Bah, je sais pas, Thibaut Pinot, il l'a pas porté.
Thibaut Pinot n'a pas porté.
Sarah, elle joue encore.
Mais non, mais.
Mais non,
mais. Non, mais la preuve que non. C'est un duel entre les grisonnants. Marc Madio et Christophe.
Si,
Christophe.
Qui...
Christophe, allez, arrête. Arrête.
Simon.
Simon quoi?
Non, Simon, son nom de famille.
C'est qui? François Simon, c'est bon. Ouais. Pascal Simon, c'est bon. François Simon, il y a deux Simon. Oh bah voilà, je te mets les deux.
Jackie Durand.
Jackie Durand.
Ah.
Oui, mais là, ça t'est arrivé une fois de pas trouver l'un de tes coureurs. Christophe.
Romain Bardet, je suis pas sûr.
Romain Bardet?
Non.
Romain Bardet, oui.
Il a perdu. Non, Bardet, il l'a pas eu. Ah si, pardon.
Mais oui, il a eu un jour.
C'est à toi, perds pas de temps.
Vas-y.
C'est à toi.
Ah, moi.
Mais la radio, tu sais, on peut pas faire de bleu.
Alaphilippe.
Non, c'est la fin de l'année. Les c'est terminé. Thomas Beauclerc.
J'ai dit. Non, mais c'est bon, t'as dit. C'est bon.
Ça t'énerve.
La victoire. Ça l'énerve, en fait. Monsieur Fred Weiss.
C'est incroyable. Merci beaucoup.
Alan qui s'impose. Bravo, Alan.
Exxon, marque française d'objets design et connectés, vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur exxon-design.com.
Christophe est convaincu à chaque fois qu'il gagne que je ne suis pas content de voir sa victoire. Ouais. Je suis heureux de te voir heureux, Christophe. Voilà, je veux. Voilà,
on a fait le back-to-back.
Vous avez fait le back-to-back. T'as gagné hier, toi?
Bah oui, j'étais avec lui.
On était ensemble hier.
Oui.
C'est incroyable, peut-être qu'on va vous mettre ensemble face à Bennett. Ouais,
alors que, peut-être plus. Hein.
Alors qu'on a vu l'axe de la triche assez nouveau entre Marc Madio et Sarah Pitkowski.
Oui.
Voilà, on crée des histoires. Merci Marc, merci Sarah, merci Christophe, merci Fred Weiss. On est ici en direct du Grand Prix du Mans. Tout de suite, les Paris RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport en direct du Mans.